Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Menaces, répression pour contenir les manifestations. Voici ce qu'il se passe en Irak depuis un mois et demi. Les contestataires sont traqués par la police sur ordre du pouvoir. Rencontre avec une manifestante en début de journal. Nous entendrons ensuite Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a assuré hier à Washington, a été rassuré par son homologue américain à Washington hier. Les États-Unis restent bien engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Pourquoi l'université de la Sorbonne a-t-elle changé de lieu pour une conférence prévue sur le terrorisme? Jean-Charles Brizard, intervenant, parle de censure. Nous reviendrons sur la polémique. Et puis nous vous expliquerons pourquoi Éric Ciotti ne brique plus la mairie de Nice face à Christian Estrosi. La guerre au sein du parti Les Républicains n'aura pas lieu. Plus de 330 personnes, pour beaucoup des manifestants, ont été tuées dans les violences qui secouent l'Irak, l'un des pays les plus riches en pétrole au monde, mais aussi l'un des plus corrompus. La contestation contre le pouvoir dure depuis un mois et demi, depuis le 1er octobre dernier. Et pour dissuader les Irakiens de manifester, le pouvoir réprime et menace. La Commission des droits de l'homme dans le pays confirme ainsi l'enlèvement de plusieurs personnes en marge des manifestations. D'autres protestataires disent avoir reçu des menaces, des lettres de menaces, des coups de téléphone inquiétants. Des jeunes femmes sont souvent visées. Notre correspondante Lucille Wasserman a rencontré l'une d'elles.
Rehan Ferraz est une jeune Irakienne de 21 ans. Elle est capitaine de l'équipe nationale de basketball féminine en Irak et suit des études de médecine à Bagdad. Des compétences qui l'ont poussée à s'engager en première ligne des manifestations, explique-t-elle, installée dans un restaurant.
Mon rôle principal dans la contestation, c'était de soutenir les manifestants. J'aidais les blessés et je leur apportais des médicaments.
Mais cet engagement n'est pas apprécié de tous en Irak. Après 10 jours passés sur place, elle est finalement rentrée chez elle et a trouvé une lettre de menace accrochée à sa porte.
Sur la lettre, il y avait écrit « Arrête de manifester » avec du sang dessus. Puis quelques jours plus tard, des hommes ont appelé mes collègues pour savoir si j'étais à l'hôpital. Ma famille est très inquiète et ne m'autorise plus à y aller.
Impossible de savoir qui est à l'origine de ces menaces, selon elle.
Je ne sais pas. Il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement dans les manifestations. Alors sûrement eux, ils prennent des photos et identifient les gens sur place.
Comme Rehan, de nombreux autres manifestants disent avoir été victimes d'intimidation. Si cette jeune Irakienne dit, elle, ne pas avoir peur, beaucoup ont déjà quitté les rangs des protestataires place Tahrir par crainte de représailles.
C'était Lucille Wasserman depuis Bagdad pour France Culture. Israël a de nouveau frappé des cibles du djihad islamique ce matin dans la bande de Gaza, fragilisant un peu plus l'accord de cessez-le-feu de la veille. Une réponse en fait aux dizaines de roquettes tirées un peu plus tôt vers Israël. Un mois après l'opération militaire turque lancée dans le nord de la Syrie et l'annonce d'un retrait américain de cette zone, les ministres des Affaires étrangères des pays appartenant à la coalition anti-Daesh se retrouvaient hier à Washington. Les États-Unis ont à cette occasion tenu à rassurer leurs partenaires, affirmant que malgré les déclarations parfois fluctuantes de l'administration Trump, le pays restait engagé dans ce combat contre le groupe État islamique. De quoi rassurer effectivement le ministre français Jean-Yves Le Drian.
Il y avait un trouble et une inquiétude parce que d'une part, il y a eu cette offensive turque dans le nord-est syrien, alors que la Turquie était membre de la coalition et que l'on a appris comme cela. Et puis il y a eu aussi l'annonce du retrait américain de l'ensemble du nord-est syrien. Et donc il fallait clarifier. Il fallait savoir si la coalition continuait ou non, et si le combat contre Daesh était fini. Alors que nous savons que ce n'est pas parce que l'implantation géographique est devenue caduque que la capacité de projection, la capacité de conversion idéologique soit terminée. Il y a des risques majeurs de résurgence. Et aujourd'hui, le combat continue, si je peux me permettre cette expression. Je suis rassuré parce qu'il y a eu une vraie cohésion, européenne d'abord, très forte, puis une cohésion globale, et les États-Unis ont repris leurs responsabilités dans cette coalition dont ils assuraient le leadership.
Des propos recueillis par Grégory Phillips. Des milliers de blouses blanches ont défilé dans les rues hier à Paris, Besançon ou Toulouse pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs dans les hôpitaux publics. Emmanuel Macron dit avoir entendu la colère de ces manifestants. Il promet que des décisions fortes seront annoncées la semaine prochaine. Mais cela a agacé les sénateurs qui examinent justement le financement de la sécurité sociale pour l'année 2020. Hier soir, ils ont rejeté le texte dans son ensemble, s'estimant méprisé avec ses futures annonces qui rendront, selon eux, les débats caduques. Y a-t-il eu censure brutale à la Sorbonne? C'est ce que prétend en tout cas Jean-Charles Brizard, le président du Centre d'analyse du terrorisme, estime que l'annulation d'une conférence internationale sur le terrorisme a été censurée. Elle devait avoir lieu à la Sorbonne à Jussieu, mais le lieu a en fait changé au dernier moment. Il a été changé par la présidence de la Sorbonne Université, Antoine Marette.
Cette conférence devait se dérouler le 7 novembre dernier à Jussieu. Mais une semaine avant, Jean-Charles Brizard est informé par la présidence de Sorbonne Université que l'événement ne peut plus se tenir sur le campus.
Je reçois un appel d'un conseiller de ce président qui m'informe que, au vu des problèmes que peut engendrer cet événement, qui est risqué, qui est dangereux pour la vie des étudiants, etc., le président a décidé abruptement de ne pas accueillir cette conférence. Ce qui est évidemment pour nous incompréhensible, compte tenu des relations qu'on a nouées depuis 6 mois avec l'université. C'est très brutal, c'est une censure pour nous. C'est le caractère brutal de cette décision qui a beaucoup choqué.
Julien Blanc est le directeur de cabinet du président de Sorbonne Université. Il refuse le terme de censure et il invoque des raisons de sécurité.
Cette conférence réunissait des exécutifs, des personnes en responsabilité de la lutte contre le terrorisme, très exposées, qui d'ailleurs étaient accompagnées d'officiers de sécurité. Et donc on a jugé qu'on ne pouvait pas garantir que la conférence se passe correctement. Donc on a tout fait pendant 2 jours, une fois la décision prise, pour trouver un autre lieu avec les organisateurs, l'école militaire, qui était quand même plus adaptée aux questions de lutte contre le terrorisme, qu'une université.
Effectivement, la conférence a bien eu lieu à la date prévue, mais pas dans le lieu prévu. Le président du Centre d'analyse du terrorisme regrette qu'elle n'ait pas pu se tenir dans un cadre universitaire.
Les eurodéputés ont donné leur accord pour que le Français Thierry Breton devienne commissaire européen au marché unique et au numérique. Et cela malgré les risques de conflits d'intérêts qui ont tout de même été soulevés hier par certains groupes politiques au Parlement européen. Lui jette l'éponge pour les municipales de Nice. Éric Ciotti ne brique plus la mairie face à Christian Estrosi. Il n'y aura donc pas de guerre fratricide à Nice entre des élus Les Républicains. Éric Ciotti s'en explique dans une longue lettre aux Niçois publiée sur Facebook. Rosalie Lafarge.
Il évoque pêle-mêle la loyauté à sa famille politique, sa volonté de rassembler à l'heure des difficultés traversées par la droite ou encore son souhait de poursuivre son travail parlementaire. Mais il y a fort à parier qu'un autre argument a fait pencher la balance d'Éric Ciotti. Un sondage Ipsos publié il y a 1 mois. Ce sondage donne Christian Estrosi largement en tête au municipal à Nice avec 38% des intentions de vote, soit 14 points de plus que le député. Et sans candidature Ciotti, c'est même une victoire dès le premier tour qui semble promise à l'actuel maire de Nice. Y aller malgré tout, c'était visiblement bien trop risqué. Pour autant, renoncer n'a pas dû être évident. Ce match entre frères ennemis est annoncé depuis des années. Éric Ciotti s'y est préparé longuement. En juillet encore, il traçait les grandes lignes d'une possible future campagne. Il accusait son ancien mentor de solliciter l'investiture En Marche, ne se privait pas de distiller quelques piques dirigées contre Christian Estrosi. La guerre semblait déclarée. Elle n'aura pas lieu, du moins pas cette fois. Est-ce Nicolas Sarkozy qui a poussé Éric Ciotti vers le renoncement? Christian Jacob, le député des Alpes-Maritimes, inscrit en tout cas ces 2 rencontres à la longue liste de justifications qu'il adresse aux Niçois, avant d'ajouter « faire la paix nécessite sans doute plus de courage que de livrer la guerre ».
C'était Rosalie Lafarge. Venise devrait connaître un nouveau et périlleux pic de marée haute en fin de matinée tout à l'heure. 3 jours après avoir été dévastée déjà par des inondations records. Elles ont d'ailleurs conduit le gouvernement italien à décréter il y a 24 heures maintenant l'état d'urgence pour catastrophe naturelle dans la cité des Doges. En France, la vague de froid qui s'abat sur le pays a apporté hier soir ses premiers flocons en pleine et de grosses intempéries. Un homme de 63 ans a été tué dans la soirée après la chute d'un arbre en Isère. Dans la vallée du Rhône, 20 000 foyers étaient privés d'électricité hier soir et ce matin, les transports scolaires sont suspendus dans le nord de l'Ardèche. La circulation des trains est interrompue par ailleurs depuis Grenoble sur 3 axes différents. différents. Ce matin, seule la Saône-et-Loire reste en vigilance, neige et verglas, vigilance orange. Le temps sera par ailleurs encore perturbé sur un grand quart sud-est et sur le nord-ouest du pays, entre des pluies et des flocons de neige. Comptez 4 degrés dans la matinée à Paris et à Lille, 6 à Lyon, 7 degrés à Strasbourg, Rennes et Bordeaux et 13 degrés ce matin à Nice.